Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la Chambre de métiers de l'artisanat engage des partenariats avec les communes de la région. La dernière en date a été signée à La Brianne, reportage dans ce magazine. À Digne, Odile Frison a rencontré des élèves infirmiers motivés pour se consacrer aux soins à la personne. Reportage dans un instant. Sisteron accueille ce week-end la journée mondiale de l'hémophilie. Le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. Du 12 au 15 avril, un événement va célébrer l'animation audiovisuelle à Marseille. Des détails sur Cartoon Next dans un reportage de Colline Jutet. À Digne, le Cairn propose une exposition éphémère. Comme la neige qui ne reste qu'un temps et qui va se raréfier avec le réchauffement climatique. Groupe originaire de la Drôme, les Toons sortent un album en pensant à Freddie Mercury. Explication en fin de magazine. Les artisans et La Brianne signent un partenariat.
Ils sont complémentaires. Les communes ont besoin de leurs artisans et vice-versa. Initiée par la Chambre de métiers et de l'artisanat, la charte de proximité signée avec les villes et villages de la région est un exemple de dispositif gagnant-gagnant. Bâtiments, artisans d'art, services ou encore métiers de bouche, ils sont essentiels à la vie des habitants et souvent au-delà du seul cercle local. Ces petites et moyennes entreprises créent et maintiennent des emplois qui ne sont pas délocalisables. Dans ce partenariat, les communes s'engagent à choyer et employer au mieux les artisans locaux, considérant que ceux-ci participent à l'activité et à l'attractivité du territoire. La dernière charte a été signée cette semaine à La Brianne, dans les Alpes de Haute-Provence, s'ajoutant à la vingtaine d'engagements déjà actés dans le 04 depuis 5 ans sous la présidence de Laure Vial. Aujourd'hui, son successeur, Stéphane Figuère, poursuit cette dynamique et a apposé sa signature aux côtés de celle du maire et également conseiller régional Jean-Charles Borghini après avoir visité quelques entreprises locales. Je vous propose d'écouter les deux signataires de cette charte. Nous l'évoquons ainsi que des services qu'offre la Chambre de métiers à ses ressortissants. Stéphane Figuère, vous présidez la Chambre de métiers de l'artisanat pour les Alpes de Haute-Provence. Vous avez signé une charte avec la commune de La Brianne et vous suivez donc le chemin tracé par Laure Vial. C'est la 25e charte dans les Alpes de Haute-Provence.
Tout à fait, oui, je suis très heureux de poursuivre ce que Laure a commencé à mettre en place et je suis très heureux d'avoir signé aujourd'hui avec le maire de La Brianne, M. Jean-Charles Borghini, parce que pour cet engagement solennel que nous allons avoir avec le suivi pour ces entreprises de proximité, n'oublions pas que l'artisanat est la première entreprise de France, d'avoir un suivi comme ça avec une municipalité pour qui s'engage pour aider l'artisanat, le suivre et le valoriser, c'est quelque chose de très important aux yeux de la Chambre.
Vous avez fait plusieurs visites d'entreprise avec votre équipe de la Chambre.
Avec mon équipe, nous avons visité donc trois belles entreprises de La Brianne. Nous avons visité Barthélémy Location. Nous avons visité aussi l'imprimerie de Haute-Provence, qui est une très très belle imprimerie. À mes yeux, je savais même pas que dans le département, on avait une imprimerie aussi belle. Et nous avons fini sur une note de douceur avec la visite de Scaramouche, le fabricant de glace, qui a des produits d'excellente qualité et tout avec des circuits courts.
Je suppose également qu'il y a dû y avoir des discussions très animées et en même temps très intéressantes avec les artisans.
Oui, tout à fait. On a parlé un peu des problématiques de chacun. Comme l'entreprise Barthélémy a des problèmes, eux, d'approvisionnement en matériel. Après, l'imprimerie, alors eux, ils ont des soucis de hausse de prix de la pâte à papier et des rouleaux de papier qu'ils n'arrivent pas à trouver. Les seuls qui se tirent pas trop mal du lot, c'est Scaramouche avec la fabrique de glace qui, eux, ont pas trop de problèmes à l'heure actuelle.
Je crois aussi qu'ils ont une bonne clientèle, et notamment dans les Alpes de Haute-Provence, et ils sont renommés. Stéphane Figuère, vous avez présenté aussi un outil important, c'est l'Observatoire de l'activité artisanale.
Oui, ça nous permet de connaître exactement le nombre d'artisans qu'on a sur le secteur, dans quel métier ils sont. Ça nous permet aussi de savoir le nombre d'apprentis qu'ils ont, de salariés, et de savoir aussi leur capacité à poursuivre leur activité et à la maintenir.
Et puis, dans la discussion qui est intervenue, juste à la signature de votre charte, des personnes de votre équipe ont parlé formation. Ça vous permettrait de dire aux artisans qu'il faut se former, car c'est gratuit pour eux.
Tout à fait. Et beaucoup d'artisans ne le savent pas, mais il faut qu'ils prennent contact avec nous au sein de la Chambre, car c'est vrai que nous avons des formations à tous les niveaux, que ce soit anglais, des formations en déclic numérique. Toutes les formations que peut avoir un artisan sont disponibles à la Chambre, mais par contre, il faut qu'ils prennent contact avec nous, et nous, on les oriente vers ce qui est bon pour eux et dans leurs besoins.
Il reste encore quelques communes dans les Alpes-de-Haute-Provence pour signer des chartes.
Oui, et on en a fait donc 26 aujourd'hui, c'est la 26e, et il en reste encore énormément à faire, et on va s'y employer pendant mon mandat, enfin le maximum.
À vos côtés, Jean-Charles Borghini, qui est maire de la Brianne et également conseiller régional. Jean-Charles Borghini, pour vous c'est un grand jour, cette signature de cette convention et de cette charte?
Effectivement, ce soir, on arrive à la concrétisation d'un projet que l'on avait avec mon équipe municipale. Cette charte a été votée en conseil municipal à l'unanimité. Et ce soir, c'est la concrétisation de ce travail que l'on a mené avec la Chambre de métiers de l'artisanat, avec la signature de cette charte. Et effectivement, c'est un bon moment dans le mandat de maire.
L'artisanat dans votre commune, ça compte beaucoup et les entreprises sont importantes?
Sur la commune de la Brianne, les chiffres sont positifs. Nous avons plus de 53 entreprises artisanales avec une part importante de dames qui dirigent 26% des entreprises. Et ça représente à peu près 160 actifs sur la commune, ce qui est quand même un chiffre fort remarquable.
Avec une variété d'activités?
Avec des activités, comme ça a été dit par Monsieur le Président, qui partent d'une imprimerie à un marchand de glace, en passant par une entreprise de location, coiffeur, esthéticienne, etc.
Vous avez également insisté sur le développement local et le partenariat qui se tisse avec, je cite dans le désordre, le département des Alpes-de-Haute-Provence, la DLVA par exemple pour votre agglomération et aussi la région que vous connaissez fort bien puisque vous y siégez.
La région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec son président Renaud Muselier, a une très forte implication au niveau de la Chambre des métiers artisanaux au niveau régional. Je vais vous donner quelques exemples. Ce partenariat s'est décliné sur l'année 2020 et 2021. Au titre de la relance, sur des ateliers tendance, sur des actions déclic et sur une action dite l'accompagnement coach. Ensuite, il y a eu un fort investissement de la région pendant la crise et quand il y a eu la crise des gilets jaunes en 2019-2020, 270 entreprises ont été indemnisées pour des montants très conséquents. Il y a eu le fonds Covid relance qui a bénéficié à 16 000 entreprises et pour une enveloppe de 11 millions d'euros. Et il y a eu aussi une action spécifique en faveur des centeniers de notre très belle région. On peut aussi décliner tout ce travail de partenariat entre la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Chambre de métiers régionale sur 6 axes, qui est le soutien à l'économie de proximité, l'accompagnement de l'innovation et la transformation numérique dans les entreprises artisanales, le développement de l'emploi et des compétences dans les entreprises artisanales, faire évoluer l'apprentissage et les compétences dans le secteur artisanal, faire de l'économie circulaire et de la transition écologique des leviers de développement pour l'artisanat et contribuer au rayonnement et à l'attractivité de notre région par une valorisation des métiers et des filières artisanales.
Faut-il rappeler que l'artisanat dans notre région, mais en France aussi, ce sont beaucoup de TPE et PME et ce sont des entreprises qui ne délocalisent pas.
Ce sont des entreprises que l'on peut qualifier de terrain. Effectivement, ce n'est pas de l'emploi délocalisable et c'est des vrais emplois locaux. Et on sait que c'est aussi une véritable dynamique en termes de création d'entreprises. Si je reviens aux chiffres que l'on a par rapport aux créations d'entreprises qui sont de l'ordre de 8 sur notre commune, c'est un chiffre positif. Les entreprises, ça va de 1 à 2 salariés jusqu'à plus de 20 salariés. salariés sur notre commune. Donc c'est effectivement des emplois locaux, et à partir du moment où il y a de l'emploi, ça veut dire que toute la chaîne économique peut perdurer. En termes d'école, en termes de collège, en termes de participation aux associations et en termes de vie locale. Et chacun dans son métier respectif.
Vous avez également ajouté que votre zone artisanale était complète, mais qu'il y a des disponibilités, notamment au centre du village.
La zone artisanale dite des Iscles est maintenant de compétence des LVA. On travaille bien en partenariat avec notre agglomération. Et effectivement, à l'heure actuelle, tous les lots sont vendus et il n'y a plus de possibilité d'installer des nouvelles entreprises. On a fait le choix avec mon équipe municipale de réinvestir le centre du village, alors avec notamment le parc pour enfants. Nous allons rénover le centre Émile-Marie, la salle des fêtes, dans le cadre du plan de relance, où les travaux vont commencer en septembre. Et au centre du village, il y a quelques disponibilités. Alors, il y a 3 entreprises qui nous rejoignent. Et il reste 2 locaux vides. Et j'espère pouvoir annoncer prochainement l'installation d'artisans locaux.
Des élèves infirmiers motivés.
Dans ce reportage d'Odile Frison, les étudiants de l'école d'infirmiers de Digne s'expriment sur la motivation et la détermination qui les poussent à s'engager dans le soin à la personne. Actuellement en deuxième année à l'IFSI de Digne-les-Bains, Mélanie, Anne Shirley et Maxence se confient à Odile. Une profession utile dans ce contexte sanitaire si particulier depuis 2020, explique Maxence, qui a quitté des études sur l'environnement pour se consacrer aux soins à la personne.
La motivation pour moi personnellement, elle est forte. Après, c'est sûr que c'est une formation qui est assez dense, mais quand on aime ça, on est prêt à tout.
Pour moi, la motivation, c'était vraiment une réorientation vers ce milieu, puisque j'étais sur des études qui étaient complètement à l'opposé, j'étais dans l'environnement. C'était complètement de me réorienter sur les études d'infirmier pour pouvoir apporter de l'aide aux personnes qui m'entourent et d'avoir un sentiment d'être utile. En plus, on a eu la période de Covid-19 avec la crise sanitaire qui a quand même donné une vague d'engouement vers les métiers d'infirmiers. On se rappelle tous cette période où les soignants étaient applaudis tous les soirs à 20h, et c'est quand même quelque chose, c'est un métier qui est souvent peu connu, celui d'infirmier. On en parle, mais on ne sait pas trop les actions de l'infirmier, leur motivation, ce qu'ils endurent, mais c'est quand même un beau métier qui a de l'avenir.
Alors moi, Anne Shirley, j'étais secrétaire médicale, donc je lisais les dossiers, je lisais ce que faisaient les soignants dans les services, et j'ai eu un besoin de passer de l'autre côté des soignants, et c'est certain que je voulais apporter mon aide auprès des équipes, mais aussi apporter du soin, du réconfort aux patients.
Tous les trois, vous avez commencé, c'était juste au début de la pandémie ?
Alors nous, on a commencé, c'était en année 2020, où on était quand même déjà dans la pandémie. C'est principalement les promotions avant nous qui ont vécu de gros changements suite à la pandémie, puisque faut savoir que sur la promotion qui nous précède, donc la promotion de 2019-2022, ont eu un arrêt de formation dû au Covid pour aller renforcer les équipes soignantes déjà en place dans les hôpitaux. Nous, on a eu, je vais vous dire, cette chance de ne pas être réquisitionnés, mais puisque c'est quand même un arrêt de formation qui entraîne une grande période où on va être dans les hôpitaux, un arrêt de formation qui ne, tout l'enseignement ne peut pas être rattrapé, car on est dans une formation qui dure 3 ans, ou peut-être 3 ans, on est formé à être professionnel de santé, à pouvoir exercer, mais déjà, le métier d'infirmier, lorsqu'on rentre, on a cette vocation d'être là pour le soin, et on est déjà considéré comme des professionnels de santé.
Nous, on alterne entre stage et formation. On a fait des stages là, mais on va dire que c'est plutôt en troisième année où il y a majoritairement plus de stages que les autres années. Nous, par rapport à la crise, on a été impacté sur l'organisation des cours. On était en distanciel, en présentiel. C'est surtout là où on a été impacté. Après, nous, on n'a pas forcément eu l'impact qu'ont eu les promotions précédentes.
Vous parliez tout à l'heure des soignants applaudis. Ensuite, on les a plus trop applaudis. On les a forcés à faire leur dose de vaccination. Comment vous avez ressenti ce retournement par rapport aux soignants ?
Mais de toute manière, l'opinion publique change. Et en ce qui nous concerne, quand on décide de devenir infirmier, ben, si on est applaudi, c'est bien. Et si on ne l'est pas, ce n'est pas grave. Parce qu'on ne fait pas ce métier pour être applaudi. Ou sinon, on ne serait pas là. Parce que c'est une formation qui est très dense, qui peut être impactée de diverses manières. Et elle nécessite de rester mobilisée. Alors oui, les applaudissements, c'est bien, mais c'est très bien sans. Et quant au vaccin, eh bien, ça reste, on va dire, une question qui est personnelle, qui est propre à chacun. Nous, on a fait le choix de se faire vacciner. On voulait poursuivre notre formation. Certains l'ont fait aussi par conviction ou par décision personnelle. Mais ça demeure une question qui est personnelle, qui est propre à chacun.
Est-ce que votre motivation n'a pas baissé? Est-ce que vous êtes plus motivé que jamais? Comment vous êtes à ce jour, donc, où il vous reste encore plus d'une année à faire?
À ce jour, moi, ma motivation, elle est forte présente et on espère qu'elle durera ainsi, mais on a choisi ce métier, donc voilà.
Les compétences qu'il faut avoir pour tenir bon dans ce métier?
Je dirais, il faut premièrement l'empathie, un minimum d'organisation, parce que voilà, être rigoureux, passionné aussi, ça aide.
Pour pas être trop sensible, ça pourrait être un handicap.
Mais être sensible, c'est bien. Trop sensible, de toute manière, trop sensible, est-ce qu'on l'est trop? C'est important de le rester sensible. Maintenant, notre objectif, c'est d'apporter du soin. Et nos émotions, elles passent au second plan à un moment, parce que sinon, on perd en efficacité. Et ce que vous nous demandiez tout à l'heure, moi, je trouvais une des qualités qu'il faut garder dans ce métier, c'est la détermination. Rester déterminé, parce que c'est vrai que c'est notre métier jalonné d'événements, et il nous faut rester déterminé.
Il existe, j'imagine, des soupapes de sécurité pour éviter le burn-out, ou vous pouvez avoir des aides morales, on peut dire aussi, il faut être soutenu suivant...
Premièrement, moi je dirais qu'on a un métier qui est vachement diversifié, donc on peut être dans un domaine, on peut être dans plusieurs domaines, donc si on est dans un service et on commence à être épuisé, on sait qu'on a l'opportunité de voir d'autres couleurs, quoi, toujours dans le même domaine. Après, quant aux aides, oui, bien sûr, on a des aides rien qu'au sein des structures hospitalières.
Il faut aussi savoir que pour aider du coup les étudiants infirmiers, il y a aussi la région PACA qui propose des aides avec le CROUS, où tous les étudiants infirmiers qui, malgré avec la crise Covid, ont peut-être eu un impact psychologique là-dessus, peuvent avoir des consultations avec un psychologue gratuitement financé par le CROUS. Donc c'est une action qui est bien d'être connue par tous les étudiants.
Et ce que je dirais, c'est que j'ai été surprise, moi, par mon premier stage, parce qu'en tant que soignant, nous voyons des choses qu'on ne peut pas partager avec les nôtres, avec notre famille. Alors certes, il y a le secret médical, mais des fois, les choses sont tellement graves qu'on ne peut pas faire porter ce poids à notre entourage. D'où la nécessité de pouvoir extérioriser auprès d'un personnel qualifié.
Est-ce que vous avez des loisirs qui vont vous permettre aussi une certaine forme de soupape aussi pour s'oxygéner?
Je dirais que c'est d'autant plus important avec la densité de la formation d'avoir des moments personnels à soi, ou sinon on sature, quoi. Donc oui, des loisirs, il y en a. Le sport...
Moi, personnellement, c'est le sport et aussi, ça va un peu dans le sens des études d'infirmier, mais l'engagement pour les autres. Je suis secouriste bénévole au sein de la protection civile.
Alors moi, je suis secouriste, mais en latence, aussi à la protection civile. Mon loisir de ces derniers temps, c'est la peinture. Et c'est vrai que ça permet de se libérer, de laisser sortir des émotions.
Sisteron accueille la journée mondiale de l'hémophilie.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à Sisteron que va se dérouler la journée mondiale de l'hémophilie, un événement organisé par le comité régional PACA Corse de l'Association française des hémophiles. Le but de cette rencontre est d'informer, aider et représenter les personnes de la région concernées par l'hémophilie, mais aussi des maladies de Willebrand ou les autres troubles de l'hémostase, dont les troubles plaquettaires et les déficits rares en facteurs de la coagulation. Ce congrès se tient les samedis 2 et dimanche 3 avril à l'hôtel Les Chênes à Sisteron, en présence de nombreux spécialistes de l'ordre médical référencé des maladies hémorragiques. Membre actif de l'AFH, Edmond Giraud présente l'association et la rencontre de Sisteron au micro de Chris Alessandri.
Alors l'association des hémophiles, c'est une association française des hémophiles et la filière santé des maladies hémorragiques constitutionnelles, MEMO, pour mettre en lumière l'hémophilie et toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles rares, la maladie de Willebrand, les pathologies plaquettaires et les autres déficits rares en protéines de coagulation.
Quand on dit maladie de Willebrand, c'est-à-dire?
Alors la maladie de Willebrand, c'est le facteur 8 assimilé au facteur de Willebrand, qui ne sont pas, pour des raisons de capacité ou d'un ou de l'autre, remplir leur rôle parfaitement pour la coagulation.
Voilà, nous sommes dans le domaine large de l'hémophilie.
C'est ça.
D'accord, donc il y a d'autres troubles de la coagulation donc qui gravitent autour de...
Voilà, en fonction des facteurs, il y a le facteur 9, il y a le... ça fait partie des troubles rares de la coagulation.
Alors vous parlez de troubles rares effectivement de la coagulation, y a-t-il beaucoup de personnes qui sont concernées, qui sont touchées par cette maladie ou ces maladies
Alors c'est une maladie rare qui regroupe quand même actuellement, les maladies rares touchent près de 3 millions de personnes en France et sont à 80% d'origine génétique.
Edmond Giraud, l'objectif de l'association, elle sert à quoi cette association, vous faites quoi avec ?
Cette association, c'est surtout pour la coordination entre les patients et le milieu médical. Porter la voix des patients atteints d'hémophilie pour que chacun ait accès à un diagnostic.
Est-ce que vous pensez que dès l'instant où on est touché par cette maladie, on se trouve quelque part un peu isolé peut-être ? Il y a une forme d'isolement ?
C'est exact, c'est une forme d'isolement par méconnaissance justement de cette maladie.
Comment peut-on diagnostiquer la maladie ? De quelle façon ? Et quels sont les symptômes qu'on peut remarquer ?
En ce qui concerne Willebrand, c'est surtout les hématomes tout petits. Et bien souvent, on pense à une maltraitance de l'enfant. Alors que, tout simplement, c'est le moindre choc fait hématome.
Alors voilà, l'hématome est formé par un choc. Hein. Ça ne se forme pas tout seul, l'hématome.
C'est ça, en général. Maintenant, il y a des formes plus sévères qui ont des pathologies, surtout c'est les articulations.
Est-ce qu'il y a un âge ?
Alors, l'âge critique de cette maladie, c'est de la naissance en principe. Moi, personnellement, j'ai été diagnostiqué à plus de 30 ans. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, à l'époque, de moins en moins maintenant, parce que c'est de plus en plus détecté tôt. Mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. On n'avait pas la possibilité, les moyens, surtout sur le plan de la recherche médicale, qu'on a maintenant.
Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, vous ignoriez que vous étiez donc atteint, touché par cette maladie ?
C'est exact.
Et les hématomes qui apparaissaient sur votre corps, vous vous posiez des questions ?
C'est surtout, j'avais d'énormes saignements de nez. À l'époque, on disait que c'était normal, il y avait une anomalie sur les parois, mais enfin, on soignait ça comme les moyens de l'époque, c'est-à-dire je saignais pendant au moins 24 ou 48 heures avant que le saignement s'arrête.
Est-ce qu'on remarque une certaine faiblesse chez les personnes atteintes de cette maladie ou non ?
Oui, c'est surtout des faiblesses sur les articulations, des hémarthroses aux articulations et donc partant de là, il y a faiblesse.
Le traitement, est-ce qu'il y a un traitement qui peut être préconisé, qui est efficace ?
Alors, le traitement en ce qui concerne nous, il y a un protocole d'accord qui est en relation avec le professeur Chambos. On donne un complément de facteur 8. Ça permet de coaguler, d'avoir une coagulation dite normale.
En cas d'accident, est-ce que vous avez sur vous une fiche spécifique pour...
Oui, nous avons une carte d'hémophile. Voilà, c'est une carte de soins d'urgence, maladie de Willebrand, c'est une carte d'hémophile. Parce que la maladie de Willebrand, vous avez le type 1, le type 2 et le type 3.
Edmond Giraud, les 2 et 3 avril prochains assisteront, va se dérouler une rencontre au niveau national. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui va se passer durant ces deux journées ?
Alors, le week-end du 2 et 3 avril, on a notre journée mondiale de l'hémophilie. La journée mondiale de l'hémophilie, sur le plan mondial, c'est le 17 avril. Et nous, en région PACA, nous le faisons le week-end le plus près de cette date-là. En fonction des dispositions des centres d'accueil, il n'est pas toujours facile de trouver un lieu de réception, un hôtel qui puisse nous loger. Nous sommes environ une centaine. Et donc, c'est pas toujours facile, en fonction des départements et des lieux, de trouver un site. En ce qui concerne ce week-end du 2 et 3 d'avril, c'est organisé donc par le comité régional PACA Corse à l'hôtel des Chênes, à Sisteron, présenté par Monsieur Eugène Carbone, notre vice-président du comité régional PACA Corse. Les intervenants sont le professeur Hervé Chambos, chef du service de pédiatrie et d'oncologie à l'hôpital de la Timone à Marseille, le docteur Céline Falaise du service d'hématologie pédiatrique de la Timone, Nicolas Giraud, président national de l'AFH, et de Carole Bess, directrice du bureau national de l'AFH.
Pour toute personne qui a besoin de se renseigner peut-être sur l'association, faire des démarches, vous contacter, de quelle façon est-ce qu'on peut vous contacter ?
Il y a une permanence tous les mercredis au 09 61 04 82 64.
Le cartoon Roi de Marseille.
Du 12 au 15 avril 2022, la première édition du Cartoon Next va prendre place à Marseille. Cet événement s'intéresse aux enjeux de l'animation dans le domaine de l'audiovisuel et aux industries créatives et numériques. Ce rendez-vous est organisé par Cartoon, une association européenne à but non lucratif, basée à Bruxelles, qui permet des rencontres entre professionnels, étudiants, étudiantes et partenaires de cette filière. Colline Juté a interviewé une organisatrice de cet événement.
Christelle Poncet, vous êtes secrétaire générale de Sudanime, une toute jeune association française du cinéma d'animation qui agit en région sud et est justement partenaire de cet événement Cartoon Next. Alors pourquoi s'associer à l'organisation de cet événement à Marseille ?
Alors, pour répondre à votre question, je vais vous parler deux minutes de Sudanime, donc qui est l'association qui regroupe les professionnels de l'animation et des jeux vidéo en région sud. Elle a un an, on regroupe une soixantaine de membres et en fait, l'idée c'était de se structurer, de se fédérer parce que on a des champions sur notre territoire, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des professionnels. On a aussi un fonds d'aide qui soutient la filière. Et donc l'idée c'était de se structurer pour être identifié, pour faire venir des projets, pour donner envie de travailler dans nos métiers, pour devenir vraiment un acteur majeur, un territoire majeur de l'animation. L'un des objectifs de Sudanime, c'est de promouvoir l'animation en région sud et on s'appuie sur l'accueil d'un événement, donc c'est un de nos temps forts, qu'est le Cartoon Next, car comme vous l'avez expliqué, c'est organisé par une association qui est très reconnue dans notre profession, qui organise 5 gros événements par an. Et donc, leur nouvel événement, qui est le Cartoon Next, eh bien, ils ont choisi de l'implanter à Marseille.
Et justement, dans la région sud, qu'est-ce que vous pourriez dire des enjeux de cette filière, que ce soit actuel ou futur ?
Eh bien, les enjeux, c'est de se développer, de continuer à se développer, puisqu'on a vraiment plein d'atouts. Il y a un nouveau fonds qui va exister aussi à Martigues, un à la métropole. Des nouveaux studios vont s'implanter sur Marseille, vraisemblablement aussi près d'Avignon, à Arles. La clé, peut-être, c'est de faire rester nos talents, parce que on a des écoles qui créent des talents, et souvent, les talents trouvent du travail ailleurs. Et nous, l'idée, c'est de créer suffisamment d'activités pour que les talents restent dans le sud. Parce qu'il faut savoir que l'animation, en France, on est très fort. On est numéro 3 mondial derrière en termes de production derrière les États-Unis et le Japon. On est les premiers producteurs d'animation au niveau européen. Et on est en manque de talents, en constante recherche de talents.
Et alors, quels liens sont à faire quand même entre le niveau local ? Donc là, vous parlez de la région sud, mais aussi le niveau national, le niveau international. Vous parlez de tous ces pays qui sont forts dans la production d'animation. Mais est-ce qu'il y a des projets à penser ensemble ?
Bah oui, en fait, l'animation, c'est le premier genre exporté dans l'audiovisuel. C'est vraiment un secteur qui est très vertueux et qui est, de par son ADN, international. C'est pour ça qu'on voit des succès comme par exemple Ladybug, pour n'en citer qu'un, comme les Pyjamasques, qui voyagent à travers le monde et qui sont des propriétés très connues dans l'univers jeunesse. Ici dans le sud, on peut citer le film Sahara qui a été produit par la station animation qui est basée à Avignon.
L'événement Cartoon Next, pour y revenir, c'est un événement qui a aussi une fonction de faire émerger les jeunes talents. Comment il y parvient ?
Il y a des journées professionnelles qui sont dédiées aux acteurs de l'animation, qu'ils soient de la région ou de l'extérieur. Donc on a 3 journées professionnelles avec des conférences et aussi des pitchs de projets. Et en amont, le premier jour, 50 étudiants de la région sont invités par Cartoon, choisis parmi 6 écoles sélectionnées dans la région. Et toute la journée, ils vont avoir accès à des professionnels qui vont leur faire part de leur expertise et qui vont les coacher pendant toute cette journée. Ensuite, ils vont pouvoir suivre donc tous les cycles de conférences et rencontrer les professionnels. Quand je parle de professionnels, par exemple, parmi les speakers, on va avoir Disney+, on va avoir HBO Max, on va avoir les producteurs de Fortiche. Fortiche, c'est ceux qui ont adapté la série League of Legends pour Netflix et qui sont c'est une série numéro 1 au niveau mondial. Voilà, donc ils vont avoir accès quand même à des gens d'un très haut niveau. Dans l'animation, on privilégie toujours la rencontre, la décontraction, ce qui fait qu'il y a plein de moments de network. Les héros et les stars, c'est les dessins animés, c'est les personnages des dessins animés. Donc en général, c'est des gens très abordables, très accessibles. Donc les étudiants pourront les rencontrer en dehors de ces moments de conférence où ils vont apprendre plein de choses. Et ensuite, le vendredi, 6 projets d'étudiants ont été sélectionnés et vont être pitchés devant un panel d'experts. Le gagnant pourra ensuite être sélectionné d'office au Cartoon Springboard, qui est un événement tremplin pour les jeunes talents et qui aura lieu en fin d'année à Madrid. Et aussi, les gagnants pourront bénéficier d'une résidence d'écriture offerte par la région. Je pense que c'est des dispositifs quand même qui sont assez incroyables pour des jeunes qui veulent se lancer dans l'animation, mais d'abord passer par l'école.
Et justement, Sudanime propose le vendredi 15 avril une présentation des différents métiers qui font partie du domaine de l'animation. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns et peut-être aussi vos fonctions en dehors de Sudanime dans l'animation ?
Donc oui, le vendredi après-midi à l'Arplex, on s'adresse aux familles et aux lycéens qui souhaiteraient s'intéresser dans l'animation pour rassurer, expliquer aussi que c'est des métiers qui sont difficiles dans le sens où il faut être tenace, persévérant, que c'est des métiers où on travaille énormément aussi. Donc on va expliquer toute la palette de métiers, comment, et très concrètement, quelle est la journée d'un animateur type, Parcoursup, comment remplir Parcoursup et quelles sont les écoles qui peuvent être intéressantes s'il y a des envies d'y accéder. Les postes clés dans l'animation, donc vous avez bien évidemment l'auteur tout d'abord, ensuite le storyboarder, vous avez un layouter, vous avez un chara-designer, vous avez un rigger, enfin voilà, c'est tout un jargon qu'il faut connaître. Quand vous voyez un générique de film Pixar, par exemple, qui dure un quart d'heure, bon ben voilà, vous voyez un petit peu toute la palette d'expertise qu'il faut avoir. Donc c'est vraiment comme des petites usines, hein, l'animation. On peut, sur un film, par exemple, il y a 200 personnes qui peuvent se retrouver à travailler en même temps. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et pour parler personnellement de moi, bah moi j'ai un parcours dans les chaînes de télévision. J'ai travaillé pendant 20 ans au sein des chaînes de télévision et récemment à Canal+, où j'achetais et je développais les programmes pour les chaînes enfants. Et j'ai décidé d'ouvrir ma structure. Et là, donc, je fais de la production et je choisis des projets qui changent un petit peu la proposition de programme. Et je fais aussi du conseil. Voilà. Et dans l'animation, ma société s'appelle Magic C.
Merci Christelle Poncé. Donc le rendez-vous est donné, on rappelle les dates du 12 au 15 avril 2022 au Cartoon Next. On restera aux aguets du futur du milieu de l'animation dans la région sud.
Exposition éphémère au Cairn.
La projection de Overtime au Centre d'art Le Cairn à Digne-les-Bains est le fruit du travail de Laura Pugnot. Une artiste sensible au changement climatique, Laura Pugnot a un lien émotionnel très fort avec la neige et une certaine nostalgie puisque cet élément qui véhicule tant de magie tend à disparaître. Sous un angle poétique, Overtime interroge les raisons de notre lien affectif et de notre besoin de vivre, d'étudier et de recréer la neige à l'ère de l'Anthropocène. Une conversation avec quelques étudiants de l'École des Beaux-Arts, Laura Pugnot et Francesca Comisso, a suivi la projection. Francesca Comisso, historienne et cofondatrice de l'association italienne A Titolo, présente le travail de Laura Pugnot au micro d'Odile Frison.
Je suis Francesca Comisso, je fais partie de l'association A Titolo qui a produit cette œuvre de Laura Pugnot, Overtime, qui a été réalisée grâce à Italian Council, du ministère de la culture italienne. Overtime, c'est un projet vidéo, c'est un projet destiné à devenir une installation avec trois écrans. Ici, on a fait une présentation avec une projection unique. Le thème, c'est la neige et le rapport qu'on a avec cette matière en même temps très magique et vulnérable, parce que c'est la seule matière qu'on ne peut pas conserver, c'est-à-dire que le glacier ou l'eau, on peut le conserver, mais la neige, ça va se transformer tout le temps. Et l'artiste est parti par son expérience biographique. Elle est née dans un village en montagne. Elle a toujours bien aimé marcher dans la neige. Et elle a beaucoup travaillé comme artiste sur la notion de paysage, sur comme concept culturel avant tout. Et elle est très sensible, évidemment, aux thématiques de climate change. Et donc, c'est un projet qui touche ça parce que la neige, c'est quelque chose qui va disparaître. Donc, le travail touche exactement ce type de sentiment qui a été défini une vraie nostalgie, hein, parce que ça fait partie d'un type de paysage qu'on pourrait perdre dans le futur, avec tout ce qui comporte au niveau évidemment culturel, mais économique, etc. Le travail s'accompagne avec le regard et les actions d'un scientifique qui fait ses analyses avec un rapport singulier avec la neige, parce qu'on imagine toujours des scientifiques qui travaillent avec de la technologie, et là, il est avec son corps dans un trou à 3000 mètres d'auteur qui touche avec ses mains, qui écoute les sons de la neige. Donc il y a ces gestes qui font partie d'une des images de ce vidéo. Il y a des scènes qui ont été tournées dans une usine qui produit de la neige artificielle. Donc l'idée un peu paradoxale qu'on va produire quelque chose comme si on sache déjà qui va disparaître. Et enfin, il y a une autre image qui suit un homme qui marche solitaire dans la neige. Ça, c'est une dernière image plus poétique. C'est un travail qui nous permet d'entrer dans cette empathie avec cette matière, de nous poser des questions. C'est un travail qui ne donne pas des résolutions, mais qui nous amène à nous se perdre dans la séduction, mais aussi dans ce sentiment un peu de nostalgie et on espère aussi de conscience qu'il faut un peu s'arrêter et changer un peu le destin vers lequel on va, sinon.
Alors, une grande sensibilité de cette artiste, donc, qui était fascinée, vous le dites, elle-même par la neige. C'est le résultat de 3 ans, elle parle de qu'elle a enquêté sur la neige.
Alors, elle a travaillé avec des autres travaux. Elle a fait des mules, elle a créé des sculptures de la neige et une chose quasi impossible, mais qui ont beaucoup touché le scientifique avec qui elle a travaillé sur ce vidéo, parce qu'il a dit, c'est nous, comme on n'a jamais pensé de voir la neige avec ce type de perspective. Donc, ça, c'est un peu un signe de comme l'art peut aussi donner des nouvelles manière de voyer aussi à qui s'en occupe au niveau scientifique, comme Michele Frepaz dans ce projet.
Alors, Pour revenir à ces trois vidéos, alors ce qui est curieux, c'est que la vidéo centrale, donc, qui est filmée dans une usine de fabrication de bombes à neige, c'est à la fois, c'est très poétique aussi, ce mouvement de ces bonbonnes, c'est une vraie chorégraphie, c'est émouvant aussi, ça donne pas le résultat d'un travail d'usine, quoi. Il y a une certaine poésie dans cette vidéo.
Oui, et c'est ça qu'elle a créé, effectivement, elle a recréé, c'est une sorte d'enchantement autour de cette matière, de ce paysage. Et c'est vrai, l'usine, c'est les mouvements de ces sprays, ces bouteilles, les couleurs, donnent une chorégraphie très, très spéciale. Et ça, c'est le fait qu'il n'y a pas une idéologie simpliciste qui va dire ça c'est mal, ça c'est bien, non, le paysage de l'année, les scientifiques c'est bien, la usine c'est mal. Non, c'est tout un regard qu'elle a posé sur ce que la neige est et signifie, donc comment on se rapproche à elle et comment on l'aime. Non, donc c'est effectivement le sentiment que vous dites de poétique, un peu lyrique, c'est ce qui elle a voulu un peu stimuler pour nous réveiller aussi avec une attitude plus active.
Cette exposition Overtime est éphémère au Cairn aujourd'hui ou est-ce qu'elle va être visible ailleurs?
Et non, c'est éphémère. Mais a été une présentation avec le débat. Elle n'est pas destinée à rester.
Les Toons, un groupe drômois avec une énergie électrique.
Les Toons, c'est le groupe pop-rock drômois que Franck Barnier-Aubert a créé voici plus de 20 ans, en 1997, en compagnie de Ludovic et André Clos. Après plus de 10 ans sur les routes de la région, le groupe enregistre un premier EP en 2008 et va créer un spectacle hommage à Daniel Balavoine qui donne lieu à une tournée sur les routes de France. Un premier album des Toons suit, Star des Champs est l'objet en 2010 d'un DVD live. Puis les artistes réalisent un spectacle hommage à Queen qui rencontre un franc succès. Dans la foulée, passage à l'écriture pour Franck, chanteur et guitariste du groupe, avec la sortie d'un livre d'anecdotes sur ses rencontres au cœur du spectacle. Grand moment également pour les Toons, en assurant la première partie de Johnny Hallyday. Les Toons se produisent ensuite en tournée avec en tête d'affiche Renaud Hanson, vedette de Starmania et de La Légende de Jimmy, les opéras rock de Michel Berger et Luc Plamondon. Mars 2022, les Toons viennent d'enregistrer leur nouvel album, Les Chroniques Mercuriennes. Chris Alessandri a rencontré Franck Barnier-Aubert, leader du groupe Les Toons.
Alors ouais, le chanteur, oui, après le leader, je sais pas, c'est un grand mot. Il se trouve que effectivement je suis le seul membre d'origine, parce que le groupe a été formé en 1997 et il reste plus que moi de cette époque-là, et le bassiste qui revient de temps en temps, voilà. Mais effectivement le leader c'est un grand mot, mais en tout cas le moteur, oui, ça me convient mieux.
Je voudrais un peu remonter le temps et parler quand même de grands instants, de grands moments pour le groupe Les Toons, avec des premières parties vraiment mémorables. Il y a eu Johnny Hallyday, il y a eu La Maison Tellier, Nilda Fernandez, Renaud Hanson, entre autres, de grands, grands moments pour le groupe.
Oui, oui, absolument. Il y a eu une chanteuse qui s'appelle Tal aussi, une chanteuse que moi je connaissais pas trop, en fait, c'est plutôt de la génération des jeunes, quoi. Et en fait, ça nous a permis de jouer au Stade Tropenas à Montélimar et c'est un super souvenir. On a joué devant 4 ou 5 000 personnes, c'était génial. Et sinon, évidemment, Johnny, bien sûr, à Vallon-Pont d'Arc, c'est un souvenir incroyable, c'est en 2012.
Pour le musicien et professionnel de la musique que vous êtes, effectivement, ce sont des révérences, mais il y a derrière tout ça le musicien et le créateur avec son propre répertoire. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin, c'est une véritable énergie que vous avez en vous, vous avez besoin de créer.
Oui, absolument. En fait, moi, je viens de là. Quand j'ai eu une guitare, quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai pas essayé de faire des chansons aux autres, j'ai tout de suite essayé de faire des chansons à moi. Il se trouve que je suis tombé dans le monde du bal, très très jeune, j'ai été embauché dans un orchestre de bal, c'était pas du tout mon milieu en fait, mais ça m'a permis d'être intermittent et du coup j'ai connu vraiment cette école du, et je la connais encore d'ailleurs, cette école du bal, et évidemment tout le monde le sait, une très bonne école, mais ça suffit pas au créateur que je suis. La base, moi, c'est de créer des chansons, vraiment, voilà. J'arrive à allier les deux aujourd'hui et ça c'est vraiment super.
Vous avez connu une réputation très solide au niveau national en interprétant des reprises, alors pas n'importe lesquelles, hein, ces reprises, vous avez sciemment choisi à votre répertoire Balavoine et Queen. Pourquoi ?
Principalement parce que c'est deux chanteurs que j'ai beaucoup écoutés quand j'étais ado. Quoi, voilà. Il se trouve aussi que moi, j'aurais plus de mal à rendre hommage à Barry White parce que ma voix est plutôt haute. Quoi, voilà, j'ai un peu de mal à descendre. Donc, c'est effectivement ce genre de chanteur avec des voix un peu perchées, ça me correspond mieux. Ça ne veut pas dire que je chante aussi bien qu'eux, on est bien d'accord. Et effectivement, Balavoine, j'écoutais ses textes quand j'étais ado. 40 ans après, j'ai envie de dire que malheureusement, ils sont toujours d'actualité. Quoi. Voilà, il a eu cette force d'écrire et formidablement bien, avec une puissance incroyable, et de chanter merveilleusement bien aussi. Et Freddie Mercury, Queen, évidemment, parce que là, j'ai eu la chance de les voir 3 fois en concert quand j'étais adolescent. C'est un groupe qui a clairement changé ma vie.
Il y a eu des tas de rencontres dans votre vie. D'ailleurs, vous êtes passé à l'écriture pour en parler. L'amitié avec Ron Hanson, comment elle est arrivée ? Ron Hanson, c'est bien sûr Starmania, la légende de Jimmy, Luc Plamondon, Berger, etc. Comment elle est arrivée, cette amitié avec Ron Hanson ?
C'est fou parce que ça fait longtemps et aujourd'hui j'arrive un peu à assumer ce terme d'amitié parce que j'étais un fan moi, hein, vraiment je l'ai vu la première fois en 85 avec Satan Jokers, j'ai suivi sa carrière tout le temps quoi, jusqu'à ce qu'Internet arrive, bah, qui m'a permis de lui écrire en fait, et il m'a répondu. De là on a organisé un premier festival, un festival qui s'appelle le Festoons, c'est un festival qu'on fait à chaque fois qu'on fait un album, et il est venu, ça s'est bien passé, et après comme il part en vacances chaque année dans le sud, bah, il s'arrête à Valence chaque année, passer quelques jours, et on en profite pour faire de la musique. Et ça fait 10 ans que ça dure, et j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à y croire, quoi. Quelqu'un que j'ai tellement écouté, voilà, presque autant que Balavoine ou Paul Naref, voilà, les 3 chanteurs français que j'écoutais beaucoup, c'était ces 3-là, mais il y avait vraiment Ron Hanson dans le lot.
Et puis là, voilà. L'amitié va loin quand même, parce qu'il y a la production aussi de l'album avec Ron Hanson. Il devient producteur.
Mais comme je le dis parfois, je sais pas comment je ferai pour le remercier un jour, parce qu'il fait beaucoup de choses pour moi. Il a même écrit une chanson sur l'album d'avant, qui s'appelle Frère. C'est un duo, en fait, qu'on chante ensemble. Et il m'avait pas dit. Il est arrivé au studio avec cette chanson, et on a enregistré ça sur le tas, comme ça, à l'improviste. Et c'est ça, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire. Donc il a produit cet album, et il produit le nouvel album qui sort le 20 avril, Les Chroniques Mercuriennes. C'est encore lui qui est derrière ça.
Et parmi les rencontres magiques, hein, comme vous dites, il y a eu Farid Medjan, batteur de Trust.
En fait, c'est vrai qu'on a un peu de chance quand même, parce qu'on tombe sur des gens brillants tout le temps. Et Farid s'en fait partie. Ouais, Farid, c'est tout le monde le sait que c'est un batteur incroyable, Farid Medjan. Mais en plus, c'est un gars hyper sympa. C'est un gars qu'on a fait une tournée l'année dernière, donc de plusieurs dates où on est allé pas mal dans les Halles Alpes et tout ça. On s'est vraiment éclaté parce que c'est quelqu'un à la bonne humeur communicative, je dirais.
Franck Barnier-Aubert, l'actualité, c'est le nouvel album avec les Chroniques Mercuriennes. Là, ça y est, nous y sommes, vous y êtes. Le résultat, il est là.
Ben oui, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est un projet qui a vu le jour à Montreux en 2020. Bon, pour la petite histoire, ma femme m'a un peu forcé à changer la destination des vacances, parce que moi, j'aime bien aller toujours au même endroit. Et elle m'a dit cette année, on part plutôt en Savoie. Et de la Savoie à Montreux, il y a qu'un pas. Donc évidemment, en tant que fan de Queen, je suis allé faire un tour à Montreux, parce que la plupart des gens savent que Montreux, c'est un peu Queen City, quoi. Queen a laissé son empreinte à Montreux de manière incroyable. Et donc, il y a la statue, il y a le studio, il y a l'appartement de Freddy, il y a une visite touristique organisée comme ça. Et évidemment, quand j'ai vu tout ça, ça m'a remué, moi. Donc, jusqu'à présent, j'avais un peu refusé d'aller là-bas parce que je voulais pas tomber, justement, dans la fade attitude et dans le tout ça. Mais évidemment, arrivé là-bas, j'ai été séduit par l'ambiance. Et j'ai eu envie d'écrire, une fois de plus, sur les conseils de ma femme. Et arrivé à Valence, j'ai écrit 11 textes que j'ai envoyés à Pascal et François, qui sont les musiciens qui m'accompagnent dans les Toons. Et ils m'ont envoyé des musiques super. Et un an et demi après, effectivement, on y est. Et ça a été à la fois long et à la fois, ça n'a pas été douloureux. Parce que on a travaillé sur un concept qui nous plaisait, dans lequel on croyait en plus. Donc du coup, effectivement, bon, c'est la première fois qu'on passe un an et demi sur un disque, hein, malgré tout. C'était pas le cas avant. On est très content du résultat.
Un petit aperçu là sur les titres qu'on retrouve sur l'album.
Pour l'instant, il y a eu un teaser qui est sorti avec le premier single. Disons qu'on va faire la sortie officielle le 14 mai en live. Il sortira un petit peu avant, comme je disais, le 20 avril sur les plateformes. Mais on n'a pas envie de le mettre en entier pour laisser un peu la surprise.
Vous avez votre chaîne YouTube, hein, FBA Musique. Hein.
Ouais, c'est cool, merci. FBA Musique, ouais, c'est ça. Musique avec un C. Et donc, pour se procurer l'album en physique, ce sera le 14 mai, parce que on veut pas le mettre tout de suite sur les plateformes en entier, par respect pour les gens qui vont se le procurer en physique. Donc, il sera sur les plateformes, évidemment. évidemment dans les semaines qui viennent. Mais d'abord, on va faire une sortie avec l'album en physique le 14 mai à Bourg-les-Valence. Je tenais à vous remercier pour l'interview et je tenais aussi à souhaiter le meilleur à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. Voilà, et merci encore.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie. On se retrouve la semaine prochaine.